Vous écoutez On lit pour vous.
60 ans de passion au service des jeunes, un texte de Mégane Foy, paru le 17 mai 2025 dans la presse. EDFI n'a pas été seulement un projet. C'était comme mon propre enfant, raconte le fondateur du mythique centre de plein air de Valmorin, Yvan Dubois, lors d'un rendez-vous avec la presse. Mais ma plus grande satisfaction, ce sont tous les jeunes qu'on a accueillis, poursuit l'ancien receveur de baseball professionnel, aujourd'hui âgé de 89 ans. Fondé en 1965, le camp EDFI a accueilli plus d'un demi-million de visiteurs en provenance tant du Québec que de l'international. En plus de son centre phare des Laurentides, EDFI compte 5 sites satellites dans la grande région de Montréal. C'est officiellement le 7 juin 2025 que l'établissement axé sur l'activité sportive et l'épanouissement des jeunes, né d'un croquis dessiné sur un coin de table, célèbre son 60e anniversaire. Tout commence en 1961, lorsqu'Yvan Dubois, alors enseignant et président de l'Association canadienne des centres de loisirs, participe à un périple à travers le monde. L'objectif? Cerner les meilleures pratiques et interventions en matière d'activité physique et d'olympisme. Au total, il visitera 22 pays et restera notamment marqué par la Suède, le Japon et la France. À ce moment, les cours d'éducation physique du cursus scolaire québécois, surtout au primaire, sont encore bien peu développés. À son retour, M. Dubois participe donc à l'élaboration des programmes d'éducation physique dans plusieurs commissions scolaires du Québec. Mais pour développer les qualités psychosociologiques des jeunes, dit-il, comme l'affirmation de soi, l'autonomie, la confiance en soi, on n'avait pas souvent les moyens ni les ressources pour avoir une action aussi profonde dans l'enseignement. Le centre de plein air, lui, il pouvait atteindre ces objectifs-là, et ils ont été au cœur de toute mon action. Une fois le terrain parfait trouvé, le centre de Valmorin voit le jour, à peine 6 mois plus tard, et accueille déjà un premier groupe. La feuille de papier quadrillé qui nous a servi de plan, ça ne fonctionnerait probablement plus aujourd'hui, lance M. Dubois à la blague, touché de la confiance que ses pères lui ont portée à cette époque. Des valeurs qui subsistent. Des formations professionnelles de receveurs, dira-t-on. Yvan Dubois a insisté pour mettre de l'avant tous ses coéquipiers rencontrés au passage, pendant sa rencontre empreinte d'humilité avec la presse. Pas besoin de chercher bien loin. À son côté, l'actuelle présidente d'EDFI, Marie-Lise Richard-Robert, en est un exemple. Quand on se parle, quand je l'écoute, je me rends compte que c'est encore exactement ça qu'on fait encore, observe Marie-Lise Richard-Robert au fil de la discussion. L'industrie a évolué, le consommateur, les familles, mais le concept et les valeurs demeurent les mêmes, poursuit celle qui, avant d'entrer en poste en 2014, était également enseignante. De son porte-document, la présidente d'EDFI sort une petite banderole jaune marquant les 5 ans de l'entreprise, intacte. C'est un ancien campeur qui nous l'a envoyé récemment parce qu'il a été marqué par son passage à EDFI, explique-t-elle, ébahi par le rôle qu'a pu jouer le centre de plein air dans la vie des jeunes. Passion et humanité. L'athlète, l'enseignant, le gestionnaire, quelle place pour ces trois rôles dans la vie d'Yvan Dubois? Vous savez, en principe, je devrais être capable de répondre à toutes les questions. Mais celle-là, je ne peux pas y répondre. confie-t-il à la presse, en ajoutant qu'il n'avait jamais vraiment résolu l'équation entre sa vie professionnelle et ses passions. « Moi, ce que je souhaite, poursuit-il, c'est que tous les élèves du Québec aient un bon programme d'éducation physique, parce que ce n'est pas vrai actuellement que dans toutes les écoles, ils sont adéquats. C'est ce que j'ai souhaité toute ma vie. Je souhaiterais voir ça avant de partir. » Chose certaine, malgré l'imposante liste de ses réalisations, aucun projet n'aura eu davantage d'importance et n'aura réuni autant ses intérêts que le camp Edfi. Hormis peut-être, prend-il le temps de souligner, son rôle de grand-père, qui l'a amené à faire un grand voyage autour du monde, cette fois avec ses propres petits-enfants. Le legs d'Yvan Dubois. À l'âge de 17 ans, Yvan Dubois est repêché par les Braves de Milwaukee dans la Ligue de baseball majeure, MLB. L'athlète fut par ailleurs le premier receveur officiel de son grand ami Claude Raymond. Monsieur Dubois a signé la préface de sa récente biographie de l'ancien lanceur des Expos. De retour au Québec, Yvan Dubois fait partie de la première cohorte du programme d'éducation physique et récréative à l'École d'hygiène de l'Université de Montréal. Pendant qu'il enseigne, il participe à l'élaboration des programmes d'éducation physique dans plusieurs commissions scolaires du Québec. Il a, par la suite, occupé plusieurs postes de cadre dans des associations sportives, avant d'être maire du village olympique aux Jeux de 1976 à Montréal. Il y a accueilli les délégations de partout dans le monde. Il a décidé d'implanter les valeurs de l'olympisme qu'il a acquises en organisant les 3 éditions des Jeux gymniques du Québec, maintenant rebaptisés Jeux du Québec. En 2019, il a été intronisé au Panthéon des sports du Québec. C'était 60 ans de passion au service des jeunes, un texte de Mégane Foy, paru le 17 mai 2025 dans la presse.
Soraya Martinez Ferrada, en route vers la mairie de Montréal. Une entrevue réalisée par André-Constantin Passiour et Denis-Daniel Boulay, parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue. La nouvelle chef d'ensemble Montréal briguera le poste de mairesse de Montréal aux prochaines élections municipales de novembre. Soraya Martinez Ferrada possède de nombreux atouts liés à son expérience politique et de la gestion de projets. C'est dans un café du village que nous l'avons rencontrée. Après avoir fait partie de l'équipe fondatrice du tout premier programme d'insertion culturelle et socio-professionnelle à la TOHU, elle est élue conseillère municipale de 2005 à 2009. Elle poursuit son engagement politique avec Louise Arel, puis retourne travailler à la TOHU avant de devenir conseillère principale de Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Puis, Soraya Martinez se lance elle-même en politique active fédérale et est élue, en 2019, députée fédérale dans Hochelaga pour le Parti libéral, PLC. En 2023, elle devient ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec dans le gouvernement de Justin Trudeau. En février dernier, elle annonçait quitter son poste et, après avoir été élue comme chef du parti Ensemble Montréal, se présente comme candidate à la mairie de Montréal. Pourquoi ce retour au municipal? Tout ce que j'ai appris en politique provient de mon expérience au municipal, une expérience que j'ai amenée avec moi au fédéral. Ce que j'aime le plus dans l'engagement municipal, c'est que cela reste une politique de proximité, de terrain. On est proche des gens. C'est, pour moi, comme un retour qui est porté aussi sur ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'est-à-dire le déclin de Montréal à tout point de vue. ce n'est plus une ville attractive comme elle a pu l'être. Il y a un manque d'innovation et les défis se multiplient sans que l'on y réponde. Quels sont, selon vous, ces défis majeurs? Montréal est confronté à plusieurs défis majeurs qui, combinés, pèsent sur son développement. Les questions liées à l'itinérance, à la crise du logement et à la sécurité publique sont au cœur des préoccupations. En particulier, l'augmentation du nombre de personnes sans abri dans certaines zones de la ville, comme dans le centre-ville ou autour de certaines stations de métro, rend difficile la gestion des espaces urbains. De plus, l'urbanisation rapide et la croissance démographique posent des questions sur la capacité de la ville à maintenir un équilibre entre les espaces verts, les logements abordables et les infrastructures modernes. Cette expansion se fait souvent au détriment de la qualité de vie dans certains quartiers, où l'accessibilité à des services essentiels devient un enjeu majeur. Ce sont des défis que l'administration Plante relève aujourd'hui. Vous ne semblez pas partager les efforts mis aujourd'hui en place par cette administration? Ce dont je me suis rendu compte quand j'étais ministre, c'est que cette administration n'était pas forcément à l'écoute, n'était pas un leader collaboratif, et j'en ai fait l'expérience lorsque j'étais ministre. Ensuite, il faut s'attaquer à la bureaucratie. La bureaucratie semble être l'un des plus grands freins au développement rapide et efficace de Montréal. Des processus administratifs complexes et une lenteur dans la prise de décision ralentissent l'avancement de projets essentiels. Les enjeux d'urbanisme, de logement et d'infrastructure sont ainsi retardés par une gestion trop rigide. Prenons l'exemple des projets de réaménagement de certains quartiers, qui sont souvent freinés par des discussions interminables, des études d'impact et une gestion trop centralisée. La bureaucratie rend difficile la mise en place de solutions créatives ou immédiates face à des crises comme celle du logement. Le manque de flexibilité et d'agilité dans la gestion de ces projets est une source de frustration pour les citoyens et les entrepreneurs locaux. Je dirais qu'au cours des 8 dernières années, il y a quelque chose qui s'est beaucoup accéléré. Il y a une polarisation aussi dans la population qui s'est créée, par exemple sur la question des pistes cyclables. La crise du logement s'est aggravée, l'itinérance a explosé. Des questions qui sont au cœur des préoccupations. On ne semble pas trouver de solution pérenne à la problématique de l'itinérance. L'itinérance est un problème complexe qui englobe plusieurs dimensions, économiques, sociales et sanitaires. Le manque de logements abordables, la pauvreté persistante et les problèmes de santé mentale ou de toxicomanie rendent la situation difficile à résoudre. Alors que des solutions temporaires, comme les camps de tentes dans les parcs ou les camps temporaires dans certaines rues, existent, elles ne sont qu'une solution de remplacement, pas une véritable réponse à long terme. Le défi majeur est de concilier une approche de soutien social avec la nécessité de réaménager les espaces publics de manière sécuritaire pour tous. Si certaines initiatives existent, comme des programmes d'hébergement d'urgence, leur portée reste limitée et souvent mal coordonnée. La collaboration entre les différents acteurs des secteurs publics, privés et associatifs reste insuffisante, ce qui empêche une approche systémique et durable. Avec l'itinérance, on touche aussi les enjeux de toxicomanie, de santé mentale, de logement, mais aussi de sécurité publique. Dans un contexte de crise du logement, les maisons de chambre pourraient offrir un compromis entre des logements temporaires et des solutions d'hébergement plus permanentes. Cependant, cette idée rencontre des résistances, notamment liées à la perception de ces logements comme des structures temporaires et peu adaptées à l'évolution des standards modernes. Pourtant, en réhabilitant certains bâtiments existants et en les réaménageant de manière plus fonctionnelle, Montréal pourrait offrir une solution rapide et efficace. Quand j'étais une élue locale, on a fermé beaucoup de maisons de chambre qui étaient en fait des piqueries, des lieux de prostitution ou encore qui étaient loués par le crime organisé. Vous écoutez Soraya Martinez-Ferrada en route vers la mairie de Montréal. Une entrevue réalisée par André-Constantin Passiour et Denis-Daniel Boulay, parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue. Pourtant, des maisons de chambre sont envisagées aujourd'hui comme un moyen de sortir les gens de la rue. Cela pourrait être une solution. Ces petites unités d'habitation étaient autrefois courantes à Montréal et permettaient à des personnes de se loger à un coût réduit. Ce serait un bon compromis entre le logement temporaire et des solutions d'hébergement plus permanentes. Cependant, cette idée rencontre des résistances dues à l'image des maisons de chambre, perçues comme étant des structures peu sécuritaires et inadaptées aux standards actuels en termes d'habitation. Mais on parle aussi de maisons modulaires, préfabriquées. Ces maisons existent à Calgary, à Hamilton. Je les ai visitées et je me demande pourquoi cela prend autant de temps à Montréal, alors que d'autres villes les ont depuis 5 ans. Et puis, il y a un nombre important de bâtiments qui appartiennent à la ville, qui sont vides, et beaucoup d'organismes ont fait des propositions très claires, mais rien ne bouge. On ne peut plus accepter des campements, pour des raisons de sécurité, aussi bien pour ceux qui vivent sous des tentes que pour les personnes qui vivent autour. Mais démanteler les campements ne suffit pas s'il n'y a pas un accompagnement des personnes qui sont dans la rue et un accès à des maisons modulaires. La toxicomanie et la sécurité publique constituent des sujets qui reviennent souvent pour celles et ceux qui fréquentent, travaillent ou habitent aux abords du village. Est-ce que, pour vous, la mutualisation du poste 21, du quartier des spectacles et du poste 22 situé dans le village est une solution appropriée face aux enjeux de sécurité? Je pense qu'il y a 2 choses à regarder quand on fait des changements de politique publique, comme c'est le cas avec la mutualisation des 2 postes de police. C'est la perception et la réalité sur le terrain. Si la perception n'est pas bonne et que cela augmente le sentiment d'insécurité avec la réunion des 2 postes, il faut absolument rassurer les citoyens-citoyennes. Ce que je crois comprendre, c'est que cela va générer des économies. C'est bien, mais est-ce que cela va améliorer le sentiment de sécurité pour la population? Il faudra voir. Québec a donné depuis longtemps de l'argent à la ville de Montréal pour l'embauche de nouveaux policiers, et l'on attend toujours l'arrivée des nouveaux policiers. Quand on parle de la toxicomanie, on pense souvent à la répression, mais pas assez à offrir de l'aide et des services aux toxicomanes. Concernant la toxicomanie, l'un des problèmes est que les substances qui circulent ne sont pas bonnes, d'où l'importance de mettre en place des sites d'injection supervisés avec une offre sécurisée d'approvisionnement sûr. Et bien évidemment, les toxicomanes doivent être mieux encadrés avec l'aide d'organismes communautaires. Très souvent, l'administration municipale accuse le fédéral et le provincial de ne pas faire leur part pour aider, surtout financièrement, Montréal à mettre en place des solutions durables et donc rejette la responsabilité sur leurs épaules. J'arrive avec une approche complètement différente. Bien sûr, il faut rappeler les responsabilités du fédéral et du provincial, mais peut-être faut-il leur proposer des projets clairs pour qu'ils embarquent. Il faut aussi se tourner vers le privé, et aujourd'hui on a une administration qui ne parle pas au privé. Il faut que les solutions soient portées par tout le monde, aussi bien par la ville, le communautaire, le privé, les 2 paliers de gouvernement. Il ne faut pas avoir peur d'asseoir tout le monde à la même table pour trouver les solutions ensemble. Il ne faut pas croire que le privé ou encore les commerçants sont insensibles et ne souhaitent pas aider à trouver des solutions durables face aux défis dont on vient de parler. Avec l'arrivée des travaux d'aqueduc sur la rue Sainte-Catherine dans le village, les commerçants s'inquiètent d'une perte d'achalandage et de revenus. Que pensez-vous faire pour les aider? Les petites entreprises de Montréal, particulièrement celles situées dans les zones où des chantiers de réaménagement sont en cours ou vont l'être, souffrent d'un manque d'accompagnement adéquat. Les commerçants sont souvent confrontés à des travaux publics qui perturbent leur activité quotidienne. Pourtant, Des programmes d'accompagnement existent, mais ils sont mal communiqués et souvent perçus comme trop complexes à utiliser. Il y a également un problème d'équité dans l'accès à ces aides. Les petites entreprises, en particulier celles dirigées par des entrepreneurs issus de communautés marginalisées ou de quartiers moins centraux, ont parfois du mal à accéder au financement ou à l'accompagnement nécessaire. L'accès à l'information sur les subventions, les prêts ou les mesures de soutien devrait être simplifié et plus accessible pour éviter que certaines entreprises ne disparaissent sous le poids des travaux publics. Vous revenez souvent sur la nécessité de travailler avec le privé pour rendre la ville plus compétitive et l'aider à trouver des solutions aux enjeux dont nous venons de parler. Le privé devrait-il être inclus dans tous les projets menés par la ville? Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la transformation de Montréal, surtout lorsqu'il s'agit de financer des projets d'envergure et d'apporter des solutions innovantes. En investissant dans des projets d'aménagement urbain durable, les entreprises peuvent non seulement contribuer à la revitalisation de la ville, mais aussi générer des retours sur investissement intéressants. Cependant, il est essentiel que ces partenariats soient bien conçus, avec une attention particulière aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux, pour éviter que la ville ne devienne un terrain de jeu uniquement pour les investisseurs au détriment des populations vulnérables. En gardant en tête que la culture et l'inclusion doivent être au cœur de tout projet d'urbanisme à Montréal, la ville doit être avant tout proactive, qu'elle investisse dans la qualité de vie des citoyens et citoyennes, tout en combinant l'innovation et la durabilité, ce qui ne peut se faire qu'avec l'ensemble du milieu. C'était Soraya Martinez Ferrada, en route vers la mairie de Montréal. Une entrevue réalisée par André-Constantin Passiour et Denis-Daniel Boulay, parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue.
Les Autochtones, toujours surreprésentés dans la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique. Un texte de La Presse canadienne, paru le 15 avril 2025 dans Espaces autochtones. La médecin-chef de l'Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique affirme que les décès liés aux drogues toxiques ont peut-être diminué, mais que ce n'est pas le moment de renoncer aux mesures vitales, surtout compte tenu de la désinformation qui règne dans le discours public. La docteur Nell Wiman affirme que les peuples autochtones continuent d'être représentés de manière disproportionnée parmi les décès, alors que la Colombie-Britannique souligne le 9e anniversaire de la Déclaration d'urgence de santé publique de la crise des drogues toxiques. Elle indique que son équipe fait pression sur le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique pour qu'il contribue à trouver une approche adaptée aux enjeux propres aux Autochtones afin de prévenir davantage de décès et de combler l'écart avec la population non autochtone. La Dr. Wiman a présenté des données montrant que 427 Autochtones en Colombie-Britannique sont décédés d'une surdose de drogue toxique l'année dernière, ce qui représente une baisse de 6,8% par rapport à 2023. Cependant, elle affirme que leur taux de mortalité était toujours en moyenne 6,7 fois plus élevé que celui des autres résidents de la Colombie-Britannique, soit une augmentation par rapport à 2023. Citation. Il s'agit de l'écart le plus important observé entre les Premières Nations et les autres résidents en matière de décès liés aux drogues toxiques depuis 2016, année où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Fin de citation, a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse. Alors que les Premières Nations représentent environ 3,4% de la population de la Colombie-Britannique, la Dr. Wiman a indiqué qu'elle représentait 19% des décès liés aux drogues toxiques l'an dernier. Les femmes des Premières Nations étaient particulièrement surreprésentées, leur taux de mortalité étant 11,6 fois supérieur à celui des autres résidentes en 2024, tandis que le taux de mortalité des hommes des Premières Nations était 5,2 fois supérieur à celui des autres hommes de la province. Des mesures utiles. La Dr. Wiman a néanmoins ajouté que les derniers chiffres montrent également que les mesures de réduction des méfaits contribuent à ralentir le nombre de décès. En collaboration avec le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, elle a indiqué que l'autorité sanitaire avait mené une analyse estimant que les mesures, telles que les centres de prévention des surdoses et les trousses de naloxone à emporter, avaient permis d'éviter au moins 1024 décès potentiels entre 2018 et 2022. Citation : Ce n'est pas le moment de faire marche arrière sur la réduction des méfaits, surtout pour une population surreprésentée. Nous savons que le racisme envers les Premières Nations est répandu dans tous les systèmes, pas seulement dans le système de santé, mais dans tous les systèmes qui touchent les personnes qui tentent de stabiliser ou d'améliorer leur vie. Fin de citation, dit la Dr. Wiman. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, le service des coronaires, les chercheurs et les autres intervenants doivent s'opposer à la désinformation et à la rhétorique néfaste qui circule dans le discours public au sujet de la crise et des mesures de réduction des méfaits visant à sauver des vies, estime Nell Wiman. Elle a souligné que l'initiative de décriminalisation de la province avait été très importante pour les peuples autochtones qui ont tendance à être surreprésentés dans le système de justice pénale. La possession de petites quantités de certaines substances illicites à des fins personnelles a été décriminalisée en Colombie-Britannique en janvier 2023, mais la province a restreint le programme en mai dernier, limitant sa portée aux résidences privées, aux refuges, aux centres de prévention des surdoses et de dépistage des drogues, ainsi qu'aux centres de traitement des dépendances en consultation externe. Citation : L'objectif de la décriminalisation était de tenter de réduire la stigmatisation des personnes qui consomment des substances. Fin de citation, a mentionné la Dr. Wiman, ajoutant qu'elle visait à faire de la consommation de substances un enjeu de santé plutôt qu'une question judiciaire. Citation : Il est frustrant de voir ce discours disparaître et d'entendre des gens dire des choses comme « Maintenant que toutes les drogues sont légales dans cette province », ce n'est certainement pas le cas. Fin de citation, a-t-elle précisé. C'était « Les Autochtones toujours surreprésentés dans la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique », un texte de la presse canadienne paru le 15 avril 2025 dans « Espaces autochtones ». ».